vous remercier d'être venus tous et tous ce soir, de vous être déplacés pour venir m'écouter. J'aimerais remercier évidemment le Bistrot des Ethnologues de m'avoir invité à intervenir ce soir ici à Montpellier sur ce livre effectivement que j'ai publié en 2013 sur le métier de tatoueur, qui est en fait tiré de ma thèse de doctorat que j'ai réalisée à l'Université de Lausanne. Alors le tatouage n'était pour moi pas un sujet totalement nouveau, puisque j'avais déjà travaillé dessus lors de mon mémoire de licence en sociologie à l'Université de Genève. Mais je m'étais déjà intéressée plutôt du côté des pratiquants, hein, effectivement des tatoués, qu'est-ce que ça veut dire de se faire tatouer, etc. Dans une perspective très socio-anthropologique. Et puis au moment de poursuivre ce travail par une thèse de doctorat, j'imaginais assez difficilement travailler sur quelque chose qui ne me fascinait pas et qui ne me passionnait pas sur de longues années. Et donc j'ai poursuivi mes interrogations et puis je suis progressivement arrivée à la thématique des tatoueurs, me rendant compte qu'on était dans une situation où l'engouement pour la pratique impliquait de la part des autorités des inquiétudes vis-à-vis des risques sanitaires et donc des réglementations, qu'une grammaire de l'art s'était de plus en plus imposée dans le milieu, et donc tout ça posait question sur l'autre versant, hein, pas simplement ceux qui se mettent des images sous la peau, mais ceux qui les mettent sous la peau des autres. Et donc j'ai progressivement fait évoluer mon objet vers cette pratique d'un point de vue professionnel, donc des tatoueurs. Ce soir, j'ai décidé de pas... alors peut-être que vous serez un peu déçus, mais je n'espère pas. J'ai décidé de ne pas vous présenter une synthèse vraiment du livre. J'ai vu qu'il y avait des personnes avec quelques exemplaires. Donc si vraiment vous voulez vous en faire une idée, vous pourrez les feuilleter pour voir comment j'ai traité le sujet, effectivement, sur la question de la relation du client, du tatoueur à ses clients, la question des images qu'on se met sous la peau. C'est quoi ces images qu'on se met sous la peau aujourd'hui? Et puis de comment on devient tatoueur, comment on entre, comment on apprend ce métier. Ce que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars et donc la journée internationale des femmes, c'était de vous rendre compte un peu de certains résultats de ce travail d'enquête que j'ai mené finalement pendant près de 10 ans, si on compte à la fois ce mémoire et cette thèse, sous cet angle-là, qui est plutôt celui d'une approche de genre, sur l'objet tatouage, et de relire un peu ces résultats, cet engouement récent, ce que ça veut dire de tatouer des gens de ce point de vue-là, dans un contexte où la pratique, en fait, à travers ces transformations récentes, a subi une transformation majeure qui est sa féminisation. Et donc, j'ai souhaité aujourd'hui vraiment recentrer plutôt le propos et ce que je vais vous raconter sur ces développements de la pratique contemporaine du tatouage dans nos contrées, pour discuter à la fois d'éléments qui sont plus larges et liés à des formes de discrimination qu'on peut observer dans le monde du tatouage, comme dans d'autres sphères professionnelles, puisque ça touche aussi les tatoueuses, mais aussi des éléments liés à ce que ça signifie de disposer de son corps. Sommes-nous vraiment libres de faire ce qu'on veut de nos corps, de les transformer, d'y tatouer ce qu'on souhaite, etc. Donc c'est un petit peu ce trajet-là que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc pour le programme, parce que je vous ai prévu un petit programme, j'ai fait un PowerPoint, en Suisse c'est quelque chose qui est très courant. donc voilà, je vous ai prévu un petit programme de manière à faciliter aussi le fait de me suivre, et aussi parce que j'ai évidemment la thématique amène toujours des images. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de revenir sur l'origine, ce qui a fait que le tatouage a fait l'objet d'un tel engouement au cours de ces 20 à 30 dernières années. Et puis de comprendre un peu qu'est-ce qui a permis au tatouage d'être réhabilité, quels effets, quelles conséquences ça a eu. On verra que ça a permis à la pratique de se populariser, donc il y a une forme de relocation sociale de la pratique qui interroge évidemment aussi la liberté qu'on aurait aujourd'hui de transformer nos corps. On verra alors évidemment que malgré ces processus de réhabilitation et de relocation sociale de la pratique, qui s'est redéfinie comme une forme d'expression personnelle et libre de soi, les images inscrites sous la peau restent toujours ceintes par des normes qui sont de fait fortement socio-sexuées. Et elles marquent à la fois les désirs de la clientèle qui se tatoue, les manières de réagir au tatouage, mais aussi la manière qu'ont les tatoueurs de négocier les projets de leurs clients. ces conventions de production du tatouage selon des stéréotypes qui sont socio-sexués sont en fait communément partagées par les tatoueurs et les tatoueuses, on va le voir. Mais les inégalités entre les professionnels de l'ancrage qu'on peut observer hein, dans le monde du tatouage ne sont au fond pas vraiment liées hein, au type de relation que les tatoueurs et les tatoueuses entretiennent à leur clientèle, qui n'est pas fondamentalement différente entre hommes et femmes, mais plutôt à la manière dont les réputations se construisent à l'intérieur de cette sphère professionnelle. Donc là, je vous proposerai de discuter hein, des critères mobilisés par les professionnels pour juger de la qualité d'un travail réalisé par leur pair, donc juger de la qualité d'un tatouage, ce qui leur permet évidemment de différencier les bons tatoueurs, des mauvais tatoueurs, voire au contraire, hein, des artistes tatoueurs. Et on verra que si ces critères de jugement ils sont partagés par les praticiens du tatouage, ils sont appliqués de manière biaisée quand il s'agit des femmes. Leurs comportements, leurs compétences sont par conséquent souvent moins reconnues que celles des hommes, selon des mécanismes qui sont finalement similaires à ceux qu'on peut observer dans d'autres sphères professionnelles. Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler à la fois, on va avoir un trajet qui va partir vraiment hein, de cette transformation qu'a connue la pratique, à quoi elle la doit, cette transformation, de qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de se faire tatouer, du point de vue, évidemment, hein, du genre, et puis ensuite pour glisser progressivement hein, vers cette dimension des professionnels de l'ancrage. Alors vous l'avez sans doute vous-même déjà observé hein, par rapport à cette question du processus de réhabilitation de la pratique, que l'été venu, hein, les corps se dénudant, on observe de plus en plus de tatouages s'exposer sur les peaux. C'est quelque chose qu'on a pu particulièrement observer et voir apparaître à partir des années 1990. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le tatouage va connaître un véritable engouement dans les sociétés occidentales en particulier. Et cet enthousiasme, en fait, il va découler d'un processus de réhabilitation qui va passer par la promulgation de nouveaux discours, mais aussi de nouvelles pratiques au sein du monde du tatouage. Alors ces nouveaux discours et ces nouvelles pratiques, hein, ils arrivent, hein, ils vont prendre effet avec un engouement dans les années 90, mais ils débutent vraiment à partir des années 1980, un moment où la pratique est encore l'apanage de groupes sociaux qui sont considérés comme marginaux et qui valent au tatouage son aura rebelle. À partir des années 80, milieu des années 80, sur la côte ouest, la côte ouest San Francisco, ouais, la côte ouest des États-Unis, quelques tatoueurs pionniers sortis d'école d'art vont rentrer dans la pratique et ces nouveaux entrants vont largement participer à diffuser des nouvelles manières de concevoir et de faire le tatouage. Ils vont tenter en Occident de dissocier la pratique de ses usages dans des milieux ou des groupes sociaux qui étaient jugés déviants. Hein, on peut penser aux gangsters, à la prostitution, tatouage des prisons, mais surtout tatouage dans les milieux bikers. Puisqu'à partir des années 40, hein, ces groupes hein, qui étaient constitués d'anciens pilotes de guerre démobilisés hein, et qui vont progressivement grossir après les guerres de Corée, puis du Vietnam, etc., les rangs des bikers. Donc les bikers, c'est ces groupes de motards hein, qui sont réunis dans des clubs, dont les plus connus sont les Hells Angels, qui naissent à la fin des années 40 et qui s'approprient très rapidement la pratique. Et donc évidemment, hein, ces appropriations, elles vont fortement connoter la signification du tatouage et lui valoir cette aura tout à fait sulfureuse dont il va s'agir hein, justement de se distancer hein, et de se dissocier. C'est un travail qui va être effectué hein, en partie évidemment par ces tatoueurs hein, formés dans des écoles d'art qui vont rejoindre la pratique et promouvoir hein, une nouvelle manière de la concevoir, la dissocier de ce passé sulfureux. Et donc ça va prendre plusieurs formes. La première, hein, c'est évidemment que la pratique va s'offrir en fait un nouveau passé qui est beaucoup plus apte à légitimer ses usages contemporains. Donc elle va être envoyée à des pratiques tribales immémoriales plutôt qu'à ses usages, hein, évidemment, sulfureux, fortement connotés, parce que, évidemment, renvoyant hein, à des groupes sociaux fortement stigmatisés. En particulier, évidemment, chez les bikers, qui ont joué un rôle absolument fondamental dans la structuration du monde du tatouage, et ce, dès les années 40 et 50. Hein. Deuxième élément qui va être extrêmement important dans ce processus qui va permettre la réhabilitation de la pratique, c'est que pour éviter de reproduire une iconographie qui est beaucoup trop fortement liée justement à ces usages passés et stigmatisés du tatouage occidental, de nouveaux motifs vont être puisés dans les sociétés tribales d'Afrique et d'Asie, en particulier dans la tradition japonaise du tatouage, on parle du style japonais, ou alors hein, dans des traditions liées à des îles, hein, comme par exemple le polynésien lié à la Polynésie. La pratique va surtout être redéfinie comme une forme d'expression personnelle et valorisante de soi, plutôt que comme une simple marque d'appartenance. Donc la personnalisation des motifs, à partir de là, elle va devenir absolument impérative. Il ne va plus être question de tatouer ce qu'on appelle des flashs dans le monde du tatouage. Les flashs, hein, c'est des gammes restreintes de dessins au canevas prédéfini, qui étaient reproduites à l'époque, hein, telles quelles sous la peau. Il va au contraire s'agir de plus en plus hein, de tatouer des motifs qui sont personnalisés, de manière à pouvoir hein, effectivement fournir à la pratique hein, ce pouvoir de singularisation. Alors là, je vous ai mis des photos que j'ai prises dans les studios de tatoueurs, la première pour vous montrer hein, ce qu'étaient ces flashs. C'est des planches de flashs que j'ai photographiées dans le studio du premier tatoueur roman à avoir ouvert Pignon sur Rue, en Suisse romande, en 1980. Ils étaient deux en 1980 en Suisse, le premier a ouvert en Suisse allemande, le deuxième en Suisse romande, à Lausanne, en 1980, ils étaient deux. Et lui, quand il a ouvert son studio, il a acheté évidemment tout le matériel lors d'un voyage aux États-Unis, parce que sinon c'était difficile hein, de se procurer le matériel, les tatoueurs avaient plutôt une économie du secret, c'était compliqué d'obtenir le matériel, donc il se l'est procuré aux États-Unis, il est revenu en Suisse, et quand il a ouvert son studio Pignon sur Rue, il a placardé ses planches de flash. Hein. Les clients rentraient dans le studio, pointaient du doigt le motif qu'ils souhaitaient acquérir sous leur peau et passaient directement sous les aiguilles. Aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit plus du tout de tatouer ce genre de planches de flash. Elles font plutôt partie hein, d'éléments historiques que les tatoueurs mettent en valeur et qui viennent signifier aussi hein, leur longévité sur le marché. Au contraire, aujourd'hui, les tatoueurs vont présenter ou mettre en valeur leur capacité hein, graphique, leur capacité à dessiner pour mettre en avant hein, leur talent en guillemets artistique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils montrent des dessins de leurs factures où ils mettent en visibilité hein, les calques qui sont liés aux futurs motifs qu'ils vont ancrer sous la peau de leurs clients. Donc vous en voyez ici un exemplaire sur la seconde photo. Autre élément qui va être extrêmement important dans ce processus de réhabilitation de la pratique, c'est les progrès techniques et sanitaires qui vont accompagner hein, ces changements qui sont plutôt symboliques. Et là, il va y avoir des transformations, notamment au niveau de la machine électrique à tatouer, qui va être améliorée grâce à des variations dans les assemblages des aiguilles. L'éventail et la qualité des couleurs va également très fortement s'agrandir. Au niveau sanitaire, le port de gants pour tatouer va par exemple se généraliser, de même que la stérilisation du matériel de tatouage. Ce tatoueur qui a ouvert son studio dans les années 80 me racontait qu'à l'époque, il tatouait pendant une semaine avec les mêmes aiguilles. Il les restait simplement dans l'eau. Il me disait, bon, si je devais refaire, je ferais les choses de la même manière. J'ai eu de la chance de ne rien contracter, mais aujourd'hui, ce serait totalement inimaginable. Donc, l'ensemble de ces transformations hein, ont aussi favorisé ce déplacement et cette réhabilitation de la pratique. Je vous ai mis ici, par exemple, une image hein, qui montre comment les tatoueurs hein, préparent une séance d'ancrage. Donc, sur la première, vous avez une tabelle avec hein, le matériel qui va servir à monter la machine. Vous avez la structure, et puis vous avez le tube et les aiguilles qui sont emballées sous pochettes stériles. Hein. Donc elles ont été stérilisées au moyen d'un autoclave qui est un stérilisateur thermique. À côté de la petite bouteille d'encre, vous avez des capsules d'encre à usage unique et donc jetable. Une bouteille d'eau qui servira à nettoyer la peau qui est emballée dans un plastique, de même que tout le matériel qui va être touché par les tatoueurs au cours de la séance d'ancrage, de manière à éviter des contaminations croisées. Hein. Sur la deuxième photo, vous avez un exemple hein, de ces machines qui sont montées avec un montage d'aiguilles. Alors on ne voit peut-être pas très bien, c'est un peu coupé sur l'écran, mais un montage d'aiguilles hein, qui peut être plus ou moins grand. Aujourd'hui, on peut avoir un montage d'aiguilles extrêmement fin, de 1, 3 à 5 aiguilles pour faire un travail de lignage extrêmement délicat. Tout comme on peut avoir, hein, les tatoueurs disent, des magnums de 35 à 39 aiguilles, bon, ce qui est relativement exceptionnel. Et qui permettent de remplir du coup des très larges surfaces pour tatouer. Donc ça, c'est évidemment hein, des améliorations qui apparaissent à partir des années 80 et qui vont se diffuser véritablement hein, aussi à partir de cette période-là et dans le courant des années 1990 grâce à divers médiums. en particulier l'émergence de revues spécialisées, donc de revues de tatouage. Alors ces revues, elles vont évidemment être extrêmement importantes, hein, puisqu'elles vont permettre la circulation et la diffusion à la fois de ces nouveaux discours qui redéfinissent la pratique, mais aussi hein, de ces pratiques au sein des studios de tatouage et qui sont partagées par les tatoueurs. Alors il faut savoir que les premières revues de tatouage qui sont publiées sont en fait éditées hein, par les bikers. Parce que, évidemment, hein, dans les revues bikers, les bikers dédiaient quelques pages, hein, usuellement, au tatouage. Et puis, ils ont progressivement, hein, voyant les évolutions, commencé à publier des magazines totalement recentrés sur le tatouage. Je vous ai mis un exemple ici de titre, hein, comme Tattoo Revue, qui est en fait détenu par Outlaw Biker Enterprises et qui paraît dès 1987. Très rapidement, les bikers ils vont être concurrencés par d'autres éditeurs de magazines spécialisés. Je vous ai mis ici un autre exemple, hein. C'est la revue Skin and Ink, qui est une revue américaine, qui a été en fait publiée par, et ça vous dira probablement quelque chose, Larry Flint, et oui, qui n'est autre que le premier à avoir publié hein, un magazine pornographique qui s'appelait, avec ironie, The Hustler, l'arnaqueur, et qui publie cette revue dès 1993 avant de la revendre. En France, le premier magazine qui est vraiment français et produit en France s'appelle Tatouage Magazine et il paraît à partir de 1997. Aujourd'hui, il est concurrencé par d'autres magazines de tatouage qui sont des magazines de tatouage français produits en France, comme par exemple Tattoo Rise et il y en a d'autres. Alors ça, premier moyen hein, de diffusion de ces nouveaux discours, ces nouvelles pratiques. Mais les magazines ne vont pas être les seuls espaces. Hein. Il y a d'autres espaces, comme les conventions de tatouage, qui vont jouer aussi un rôle extrêmement important. Les conventions de tatouage, c'est des week-ends hein, au cours desquels les enthousiastes de la pratique, ça veut dire hein, les tatoués, les tatoueurs, mais aussi les fournisseurs de matériel d'ancrage, vont se rencontrer le temps d'un week-end, d'une messe, qui est totalement organisée, recentrée autour du tatouage. Alors là aussi, hein, originellement, les bikers étaient extrêmement importants puisqu'ils étaient les principaux organisateurs des conventions de tatouage. C'est le cas encore aujourd'hui hein, en Suisse, par exemple, il n'y a presque pas une convention qui n'est pas organisée par les Hells Angels. Mais ils vont progressivement être aussi, sur ce terrain-là, concurrencés par d'autres organisateurs de conventions, notamment hein, des spécialistes de l'événementiel, ou alors des personnes issues hein, elles-mêmes du milieu du tatouage. Je vous ai mis ici un exemple de deux photographies. La première, une convention à Genève qui est organisée par les Hells Angels, hein, donc le chapitre des Hells Angels de Genève, et qui est l'occasion hein, aussi d'une rencontre et d'une réunion entre des Hells Angels, notamment tatoueurs aussi, hein, le temps d'un week-end. Et puis une convention qui est organisée par exemple par Tattoo Passion, qui est en fait aussi un forum internet qui est géré par des tatoueurs qui ont organisé pour la première fois la convention internationale d'Evian en 2007. Donc ces conventions, hein, ça va être des espaces extrêmement importants de rencontres. Elles vont commencer à être non plus nationales mais internationales à partir du milieu des années 1980. Hein. Et donc on comprend bien que ces changements, ces transformations vont progressivement se diffuser par ces biais-là et commencer à avoir des effets hein, véritables sur l'engouement qu'on a pu observer dans la pratique à partir des années 1990. Dans les années 1990 aussi vont se développer hein, au niveau de ces échanges, de plus en plus d'échanges entre tatoueurs qui vont se visiter et s'inviter au sein de leur studio, mais aussi hein, la création évidemment des réseaux sociaux avec le développement de la blogosphère, d'Internet, des sites individuels, collectifs, des forums sur le tatouage, dédiés à des discussions, des échanges, etc. Donc l'ensemble hein, de ces espaces de rencontres, de discussions, d'échanges, etc. Vont permettre hein, finalement ce long processus de transformation, de redéfinition de la pratique, d'avoir de véritables effets et elles vont avoir pour conséquence hein, une relocation sociale de la pratique qui va se manifester par une popularisation du tatouage, mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, par sa féminisation. Donc la pratique va à partir de là hein, séduire de nouveaux publics et sans quitter les milieux masculins, populaires et déviants au sein desquels hein, son usage occidental s'était institué au cours du XXe siècle, le tatouage va se féminiser et s'annexer à ce qu'on dit des populations plus mainstream, en guillemets. Donc les tatoueurs disent par exemple, bah, aujourd'hui du boucher au banquier, en passant par les intellectuels, tout le monde serait désormais tatoué. Les médias, comme de nombreux anthropologues par exemple, hein, ou de nombreux chercheurs, parlent souvent de l'annexion de la pratique par la classe moyenne, hein, qui est une catégorie finalement souvent fourre-tout, qui joue surtout un rôle de légitimation du tatouage. De fait, hein, il faut savoir que le tatouage n'a pas perdu son ancrage populaire. Il existe aujourd'hui malheureusement pas véritablement d'enquête qui permette de cerner les contours sociaux extrêmement hétérogènes de la pratique, mais plusieurs indices hein, nous permettent de conforter hein, cette idée selon laquelle effectivement le tatouage, oui, s'est popularisé, mais il reste toujours très fortement ancré dans les milieux populaires. Donc les bikers sont toujours, par exemple, de fervents adeptes de la pratique, ce sont essentiellement des cols bleus. Si on regarde qui sont les pratiquants, si on regarde au niveau des sports, hein, le tatouage est très diffusé dans des sports qui recrutent dans des bassins extrêmement populaires. On peut penser au foot, au rugby, mais aussi, hein, par exemple, à la boxe, au sport de combat, ou alors, plus récemment, hein, à des sports dits d'extrême, qui sont eux aussi fortement masculinisés, d'ailleurs, comme par exemple hein, le surf, le skate ou le snowboard, où on voit hein, ici de nouveau, qui renvoie hein, évidemment à des valeurs qui mêlent soif de liberté, rébellion, mais aussi prise de risque. Hein. Et donc on voit bien ici toujours les associations symboliques hein, avec la pratique. Alors les réactions hein, face au tatouage restent-elles aussi finalement très distancées hein, dans les milieux plutôt classe supérieure, classe moyenne supérieure. J'ai pu en faire l'expérience moi-même en travaillant sur cette thématique hein, dans le milieu académique où le tatouage hein, provoquait des réactions de révulsion parfois extrêmement fortes. Toujours est-il que la pratique s'est bel et bien popularisée et qu'elle s'est surtout féminisée. Au dire des tatoueurs que j'ai rencontrés, 50 à 60% de la clientèle des studios de tatouage serait aujourd'hui composée par des femmes, alors que dans les années 1970, hein, rapporte une chercheuse américaine qui s'appelle Margot de Mello, une femme devait avoir l'accord, dit-elle, de son mari pour se faire tatouer, à moins qu'elle ne soit lesbienne. Donc cet engouement sans précédent, hein, d'un point de vue numérique, à partir du milieu des années 1990, a favorisé une effervescence des studios de tatouage, bien sûr. Donc il est désormais plus rare, hein, pas du tout rare, de voir des studios qui ont pignon sur rue en plein centre des rues commerçantes hein, de nos villes, ce qui a évidemment hein, commencé à inquiéter les autorités qui, à l'orée des années 2000, se sont souciées des risques sanitaires que pouvait désormais représenter la pratique au vu de l'engouement dont elle faisait l'objet. Donc l'Union européenne, hein, à partir de là, a incité l'ensemble de ses États membres et associés à légiférer en la matière, en imposant en particulier des normes sanitaires et hygiéniques aux studios de tatouage. En Suisse, hein, elle projette également d'agréer un système d'apprentissage, mais un système d'apprentissage informel, hein, qui est déjà en vigueur dans le milieu, où il faut savoir hein, qu'il n'existe absolument pas de système de certification formelle. Il n'y a pas de diplôme pour devenir tatoueur. On apprend sur le tas, de façon plus ou moins guidée, par des tatoueurs établis, eux-mêmes plus ou moins prêts à partager quelques tuyaux, voire à les vendre. Donc dans ce contexte hein, de redéfinition de la pratique, d'engouement pour le tatouage, mais aussi de plus grande concurrence hein, évidemment entre tatoueurs, avec cette efflorescence fantastique des studios qu'on a vu au cours des années 90, mais aussi de réglementation du tatouage, il y a une grammaire hein, de l'art qui s'est de plus en plus exprimée au sein du monde du tatouage, qui a été très fortement reprise par les médias, par les chercheurs hein, eux-mêmes, mais aussi par les enthousiastes du tatouage. Évidemment, moi, ça a été un des éléments qui m'a interrogée, hein, c'est qu'en fin de compte, elle pose aussi un certain paradoxe, puisque les tatoueurs peuvent effectivement aujourd'hui vivre, et certains me disaient même bien vivre, de cette activité, mais ils doivent en même temps aussi satisfaire une clientèle qui est aujourd'hui devenue majoritairement profane et qui est finalement peu encline à choisir des motifs qui leur permettent de faire valoir leur plus haute qualité artistique en réalisant les plus beaux tatouages. Donc c'est que le tatouage, hein, il ne faut pas l'oublier, est une pratique qui consiste à inscrire sous la peau d'un tiers consentant une image qui est indélébile sous forme d'encre. Donc il est impensable hein, pour les tatoueurs de ne pas répondre au désir du futur porteur de la marque. On ne dit pas à un client qui veut une rose, non toi tu partiras avec une tête de mort, me disait par exemple un tatoueur. Donc est-ce à dire hein, que les adeptes du tatouage d'aujourd'hui seraient totalement libres de choisir ce qu'ils mettent sous leur peau? Alors les chercheurs anglophones ont beaucoup travaillé sur cette question et ils montrent hein, à ce titre que l'élection de la pratique du tatouage comme de motif et de son emplacement ne se décide pas de manière aussi indépendante et autonome qu'on veut bien souvent le dire. L'entourage social des tatoués fait bien souvent pression en amont de la réalisation du tatouage sur les modalités qui vont être choisies par le futur porteur ou la future porteuse du tatouage. Dans 80% des cas, montre un auteur anglophone qui s'appelle Michael Atkinson, qui est en fait un chercheur canadien, l'usage de la pratique va se conformer aux normes sexuées de façonnage des corps. Donc, par exemple, hein, une majorité des femmes vont aligner les modalités de leur tatouage, ça veut dire la taille, l'emplacement et le contenu de leur tatouage, aux représentations établies de la féminité. Le tatouage est dans ce cas associé à un marquage viril du fait de ses appropriations masculines passées. Y recourir nécessite donc de la féminiser de manière hein, à pouvoir préserver son pouvoir de séduction féminin. Donc le regard de l'entourage, en particulier masculin, porté sur le projet de tatouage pour ces femmes hein, a beaucoup d'importance et ne va pas par ailleurs hein, les empêcher de motiver le recours à la pratique comme une forme hein, d'expression totalement personnelle et individuelle de soi. Dans ce genre de cas, hein, ce qu'on observe, c'est que le tatouage va être placé sur des parties du corps généralement discrètes et associées au féminin, hein, comme par exemple la ceinture pelvienne, typiquement le bas du dos, la cheville aussi, le décolleté. On va bannir hein, généralement des motifs morbides ou agressifs au profit de tatouages aux tracés plutôt fins et aux ombrages légers. Mais il existe aussi une minorité de tatoués, autour des 15% selon Michael Atkinson, qui affirme au contraire résister aux standards établis de la beauté féminine à travers leur usage du tatouage. Mais elles limitent leur contestation à des formes discursives et cachent le plus souvent leurs tatouages, qui peuvent avoir des tailles relativement conséquentes et des contenus contradictoires avec ces valeurs de douceur et de féminité. Donc elles adoptent hein, ce que cet auteur appelle une position négociée qui va leur permettre à la fois de satisfaire une volonté de révolte tout en se préservant d'éventuelles sanctions sociales. Donc là, l'emplacement de leur tatouage va être extrêmement important puisqu'il va s'agir de pouvoir le dissimuler dans des situations sociales, professionnelles ou familiales qui vont exiger une très forte conformité hein, du point de vue des comportements et des normes d'apparence hein, qui sont évidemment toujours sexuées. C'est du coup l'acte de se faire tatouer qui va ici avoir de l'importance et le discours que ces femmes vont avoir vis-à-vis de leur démarche comme qui revient à une forme hein, de revendication d'autocontrôle, même si finalement le fait de dissimuler leur tatouage contrevient à une autre norme selon laquelle hein, il faudrait s'affirmer ouvertement et personnellement hein, son individualité. Seule finalement une petite minorité, 5% à peu près, hein, Michael Atkinson l'évalue à peu près 5%, de tatoués vont redoubler ces déclarations revendicatives par des modalités de tatouage qui vont être pour le coup ostensiblement transgressives. Donc ces femmes-là vont arborer des tatouages visibles, étendus, avec des motifs susceptibles de rompre des associations comme féminité, douceur, faiblesse et hétérosexualité. Par leur discours et par leur tatouage, ces femmes vont manifester une volonté, une véritable volonté de s'émanciper des modèles de beauté féminine. Je vous ai mis ici un exemple que j'ai tiré d'un ouvrage d'une auteure qui s'appelle Margot Mifflin, qui s'appelle Bodies of Subversion, donc corps subversif, qui vous fournit un bon exemple hein, de ce que pourrait représenter cette minorité des 15%, puisque c'est une femme qui a décidé d'orner son corps de pénis et qui provoque hein, généralement des réactions extrêmement fortes et extrêmement violentes. Et ce que montrent ces auteurs, hein, c'est que précisément, les réactions sociales face à ces résistances visibles et déclarées sont généralement extrêmement négatives. Au lieu de remener à repenser les modèles stéréotypés de la féminité et de la virilité, elles sont plutôt stigmatisées. Hein. Moi, j'ai interrogé les tatoueurs, par exemple, par rapport à ce cas. Ils me disaient, bon, elle n'est pas tout à fait au clair. Enfin, il la renvoyait vraiment au domaine du pathologique. Comment une femme peut-elle vouloir se faire tatouer une collection de pénis sur le corps? Donc la transgression de ces pratiquantes, typiquement de cette pratiquante-là, semble au final davantage réaffirmer que troubler les standards corporels dominants de beauté féminine. On voit ici, du coup, que les corps ne s'apparentent de loin pas à des espaces neutres sur lesquels chacun serait libre d'agir librement. Ils sont, au contraire, socialement inscrits dans des catégories de sexe qui orientent en permanence les pratiques qui viennent les façonner au fil du temps. Donc pour garder un semblant de naturalité, il faut donc que les pratiques qui viennent façonner nos corps puissent continuer à réassigner nos corps à des positions sociales qui sont évidemment sexuées. C'est l'idée, dit de manière beaucoup plus simple, de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. On le devient à travers la manière dont on façonne, y compris matériellement, nos corps et nos apparences. Par rapport à ces éléments-là, j'aime beaucoup évoquer un cas qui a défrayé la chronique dans les années... c'était en 2009, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. C'est le cas de Kimberley Vlaminck. C'est un cas extrêmement intéressant parce qu'il permet vraiment de venir rediscuter sur cette question de sommes-nous libres de modifier le corps tel que nous l'entendons et des règles aussi qui sont censées diriger le travail de modification corporelle accompli par les tatoueurs. Donc c'est un cas ici vraiment de Kimberley qui a été couvert mais par, je dirais, vraiment une majorité de médias européens en 2009. Kimberley fait vraiment la une. Elle se serait endormie au cours de la séance de tatouage et se serait réveillée avec 56 étoiles tatouées sur le visage. Interviewée par la presse, la jeune fille qui a alors 18 ans relate ses rendus avec son père, son ami, son frère et sa sœur chez un tatoueur de la région pour qu'il lui dessine 3 points vers la tempe. Le tatoueur va lui proposer plutôt 3 étoiles, estimant que c'est plus esthétique. Le père de Kimberley donne son accord et laisse sa fille seule avec le tatoueur. Kimberley déclare ne pas avoir ressenti la douleur au cours de la séance de tatouage et s'être endormie avant de se réveiller au moment où le tatoueur travaillait sur son nez. Elle découvre alors avec frayeur les 56 étoiles qui recouvrent le côté gauche de son visage. Le tatoueur évidemment réfute la version de Kimberley. Il dit avoir satisfait la demande de sa cliente qui ne s'est assoupie à aucun moment. Les problèmes ont commencé à s'éteindre. Au retour de son père et de son ami, qui découvrent évidemment avec stupeur la constellation qui orne désormais le visage de Kimberley. Le tatoueur n'en est pas moins mis en garde à vue suite au dépôt d'une plainte à son encontre par le père de la jeune fille. Suspectant un coup monté par une agence de publicité, une chaîne de télévision néerlandaise piège la jeune femme, qui reconnaît 10 jours plus tard que le résultat lui plaisait au départ et avoir inventé cette histoire suite à la fureur de son père. Bien corps du comment, c'est un cas que je trouvais que c'était extrêmement révélateur de quelques-unes des spécificités de la pratique. Pourquoi ? Parce qu'il montre que les motivations rebelles sont encore extrêmement fréquentes aujourd'hui, dans l'origine, dans l'envie de se faire tatouer. La jeune femme souhaite se faire ancrer 3 points sur le visage, en triangle, qui est un signe anti-policier, signifiant « mort aux vaches », qui est généralement tatoué en triangle entre le pouce et l'index sur la main. Ce cas montre aussi que la pression de l'entourage intervient en amont comme en aval de la réalisation d'un tatouage. Kimberley ne peut se faire tatouer que parce que son père donne son accord, quand bien même elle a tout juste 18 ans et elle est tout juste majeure. Vraisemblablement, son père donne son accord aussi en toute méconnaissance de cause, il ne connaît apparemment pas ce que signifient ces 3 points souhaités par sa fille. À l'issue du tatouage, sa colère pousse la jeune femme à mentir vis-à-vis de ses inavouables envies, mais aussi à prévoir le détatouage au laser de son visage. Kimberley a en effet outrepassé le droit de veto de son père, dont la réaction renvoie à une norme de contrôle social beaucoup plus large. Marquer son visage, le premier lieu de la relation de soi aux autres, c'est offenser le corps social. Kimberley témoigne d'ailleurs ne plus oser sortir, les regards qui sont posés sur elle lui sont devenus totalement insupportables. Elle va donc à partir de là entamer un long et lent et douloureux processus de détatouage de son visage au laser. 4 années plus tard, en 2013, Le succès de l'opération, qui aura pris à peu près 3 années, est relaté par quelques tabloïds. Mais ce cas a aussi autre chose d'extraordinaire, c'est qu'il ne révèle pas uniquement le pouvoir de sanction de l'entourage lorsque celui-ci juge que les limites de l'acceptable social ont été outrepassées. Il explicite aussi en négatif les règles déontologiques que s'imposent généralement les professionnels de l'ancrage et que le tatoueur de Kimberley a, en l'occurrence, outrepassé. Même disculpé d'avoir imposé ce tatouage à sa cliente, qu'il avait bel et bien demandé, l'éthique du tatoueur est mise à mal par sa décision de satisfaire une demande qui est jugée comme socialement totalement inappropriée. Les tatoueurs estiment en effet endosser une responsabilité sociale envers les personnes qu'ils tatouent. Ils en appellent souvent à leur propre expérience de la pratique et de la gestion quotidienne de corps qui sont généralement lourdement et ostensiblement tatoués pour rappeler les difficultés qui peuvent résulter d'un tatouage jugé socialement inadapté sur la vie professionnelle, sociale, mais même sentimentale de leurs clients. Donc, sauf exception, ils refusent généralement de tatouer des clients, en particulier s'ils sont jeunes, sur des parties trop visibles de leur corps, typiquement le visage, le cou ou les mains, à moins qu'ils n'en soient pas à leur premier tatouage. Les tatoueurs encouragent généralement leur clientèle à élire des emplacements qui sont discrets, mais ils peuvent aussi à l'occasion refuser catégoriquement de tatouer un motif au contenu qui est jugé trop extrême par eux. Donc ça nous permet de comprendre finalement que les modalités du tatouage, sa taille, son emplacement sur le corps et son contenu, sont toujours le fruit d'une négociation entre ce que souhaite le tatoué, les valeurs portées par son entourage social et la coopération du tatoueur qui évidemment en dernier lieu va réaliser le désir de son client. Du point de vue des tatoués, ce qu'on voit se manifester, c'est des aspirations à l'autodétermination individuelle face à l'empreinte sociale sur les corps. Même si les racines de cette primauté individuelle sur la définition de son être social remontent à la Renaissance, elles se sont véritablement cristallisées à partir du XXe siècle. Pour le dire autrement, on est aujourd'hui encouragé à nous affirmer comme des individus singuliers, uniques, différents, mais aussi comme des sujets indépendant, autonome. Donc on est vraiment appelé, socialement parlant, à nous individualiser, à faire preuve d'autodétermination, ce qui a rendu, évidemment, le recours à des pratiques comme la pratique du tatouage beaucoup plus acceptable aujourd'hui que par le passé. Mais le façonnage des corps reste évidemment pas moins soumis aux normes en vigueur dans les divers espaces d'insertion sociale des tatoués. Et là, évidemment, il peut y avoir une coexistence de normes qui sont contradictoires. On le voit par exemple dans le cas de Kimberley, qui a probablement voulu se faire tatouer un motif rebelle vis-à-vis de son groupe de pères adolescents, alors même qu'une fois qu'elle l'a réalisé, elle affronte d'autres normes qui sont évidemment celles du corps social rappelées à travers la réaction de son père. On ne porte pas atteinte à son visage. Cet interdit est évidemment rejoint par les normes professionnelles qui sont portées par les tatoueurs et les tatoueuses, qui consistent, je vous l'ai déjà dit, à ne pas tatouer généralement des parties du corps qui sont trop visibles et trop irrémédiablement visibles et en permanence visibles, le visage, le cou ou les mains. Dans le même temps, évidemment, les professionnels de l'ancrage ont aussi pour enjeu de préserver le pouvoir anticonformiste de la pratique, puisque c'est précisément cette aura rebelle qui séduit encore aujourd'hui les futurs tatoués et les amène dans leur studio de tatouage. Mais surtout, évidemment, les tatouages qui sortent des studios des tatoueurs, ce sont des tatouages qui sont finalement le fruit du travail réalisé par les tatoueurs et qui vont permettre à ces tatoueurs de construire leur réputation sur le marché du tatouage, mais aussi auprès de leur père. Moi, les tatoueurs que j'ai rencontrés me disaient toujours « Mais moi, ce que je fais dans le studio, les tatouages qui sortent de mon studio, c'est ma carte de visite. » Donc c'est la carte de visite à la fois auprès de futurs intéressés qui sont susceptibles de venir se faire tatouer dans le studio, mais aussi auprès de leurs pairs qui vont évaluer la qualité du travail réalisé par leurs collègues et construire sa réputation dans le monde du tatouage. Donc cette respectabilité commerciale et artistique, elle est indissociablement liée à une responsabilité sociale et morale, finalement, vis-à-vis des projets qui sont réalisés par les tatoueurs dans le studio. Il s'agit pour les tatoueurs d'éviter de concourir à la concrétisation d'une marque qui va être préjudiciable à leurs clients et par là même à la réputation, à leur réputation sur le marché du tatouage. Mais une demande n'est évidemment jamais intrinsèquement subversive. Son potentiel de transgressif dépend de l'inadéquation qui est socialement perçue entre les modalités du motif choisi et la position sociale qui est censée être endossée par le futur porteur ou la future porteuse du tatouage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que les tatoueurs et les tatoueuses évaluent les demandes de leur clientèle à l'aune de plusieurs catégories entrecroisées qui sont l'âge, l'appartenance de sexe de leur client, le métier exercé ou envisagé par le client, mais aussi l'expérience qu'il a de la pratique. Est-ce que c'est son premier tatouage ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà multi-tatoué ? La combinaison de ces quatre catégories de classement va fournir un étalon de mesure à partir duquel les tatoueurs vont évaluer le degré de conformité de la demande de leur client. Elle va leur permettre de décider de réaliser, d'infléchir ou alors de refuser une demande qui leur est adressée. Donc si le projet qui est demandé par un client paraît légitime au tatoueur par rapport aux aspirations ou à la situation actuelle du tatoué vis-à-vis de son âge, vis-à-vis de sa position sociale et de ses attributs physiques, les tatoueurs vont immédiatement entrer en matière et réaliser le projet. Si en revanche, le tatouage qui est demandé par le client paraît problématique au tatoueur par rapport à des modèles, ces modèles culturellement partagés, les tatoueurs vont essayer de conventionnaliser le projet. C'est-à-dire qu'ils vont typiquement proposer de réduire la taille du tatouage, de le placer sur une partie du corps plus discrète, d'améliorer les contours du motif. Donc ils vont faire valoir des arguments qui sont esthétiques et éthiques. Et ces arguments-là vont évidemment venir effacer les normes sociales et morales qui guident finalement leur travail de façonnage des corps, de la même manière que des coiffeurs ou des coiffeuses vont façonner évidemment les corps selon des normes de beauté corporelle dominantes, elles aussi, ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pratiques professionnelles de modification, de façonnage des apparences, typiquement dans la mode, dans la chirurgie esthétique, etc. Donc dans les cas évidemment où le studio fonctionne à flux tendu, le tatoueur peut aussi décliner une demande qui est jugée problématique ou inintéressante pour lui. Donc le client va plus souvent être renvoyé auprès d'un collègue qui va être qualifié de plus compétent pour satisfaire la demande du client, ou alors il va être découragé de réaliser sa demande dans le studio par un délai d'attente extrêmement long. Donc le tatoueur va invoquer un agenda trop surchargé pour répondre à la demande de son client. Donc pour vous donner un exemple concret, quand j'ai rencontré les tatoueurs, je les ai fait réagir sur des demandes imaginaires pour essayer de comprendre un peu comment ils négocient les désirs de leur clientèle, comment ils en discutent et plus généralement, quels sont les projets où les clients qu'ils pouvaient juger comme étant inintéressants, problématiques ou au contraire tout à fait légitimes. Je leur ai notamment présenté cette petite image que je vous ai mise à l'écran d'un petit dauphin en leur disant bah voilà, comment est-ce que tu réagirais si un homme venait et te demandait de se faire tatouer ce dauphin sur son poignet, donc sur l'avant du poignet. Donc les réactions ont immédiatement révélé la symbolique mièvre et donc féminine d'un motif, de ce motif, un dauphin, qui est aujourd'hui complètement passé de mode après un très fort engouement au cours des années 1990 suite à la sortie du film, vous aurez deviné lequel, Le Grand Bleu, merci, de Luc Besson, qui était sorti en 88. Et donc là, j'ai par exemple un tatoueur qui m'a dit « Et quand il arrivera, on va se moquer très gentiment, parce qu'un mec avec un petit poisson genre dauphin sur le poignet, on se moque, c'est logique. » Donc à ce problème s'ajoutait celui de l'emplacement du motif, dont la visibilité permanente était jugée inadéquate et d'autant plus problématique, les tatoueurs l'associaient à la demande d'un jeune homme, donc d'un jeune client. La mièvrerie associée à ce motif l'interdit évidemment pas à un homme, mais elle implique de modifier l'emplacement et d'arranger le motif de façon à ce qu'il s'accorde mieux aux attributs socio-sexués censés être incarnés par son futur porteur. En d'autres termes, si pour un homme le motif doit impérativement avoir de la gueule, ce pourquoi les tatoueurs proposaient, comme les tatoueurs, tatoueuses d'ailleurs, proposaient systématiquement de l'agrandir et de l'insérer de façon réaliste sur un fond marin, alors que pour une femme, au contraire, il fallait que le motif reste arrondi, discret et mignon. C'est-à-dire que son aspect naïf, certes mieux redessiné que sur cette image, pouvait être préservé sans que ça ne choque, comme me l'ont dit et comme le montrent ces deux extraits que je vous ai transcrits. Donc ce qu'Éric me dit hein, par rapport à l'idée hein, qu'un homme, un client homme, lui demanderait ce motif, alors déjà on va lui trouver un autre dessin si vraiment il veut le faire. On va trouver un original qui a la forme d'un dauphin juste. Donc déjà on va lui dire, écoute, sérieusement, on va le faire plus grand, mais sur l'épaule on va faire un beau dauphin qui a de la gueule. A l'inverse, hein, Quentin, en imaginant cette demande, parce qu'évidemment après ils déclinaient, ils imaginaient avec quel client, est-ce que ça changerait quelque chose, donc ça faisait l'objet d'une discussion. Quentin me dit, mais maintenant si c'est une nana, une petite ménagère qui a 45 ans machin et qui veut se faire son petit plaisir, je lui fais volontiers si j'ai le temps. Mais en lui disant, écoute, on peut le redessiner, on peut le faire mieux. D'ailleurs, j'ai encore fait un dauphin cette année, ce qui est un truc rare, mais je l'ai fait parce qu'elle voulait faire le prénom de sa fille avec 2-3 petites vagues. Et je me suis bien mariée à le faire et elle était super contente en sortant. Donc on le voit, hein, l'appréciation du traitement visuel de motif est marquée par des implicites sociosexués qui n'apparaissent toutefois pas de manière explicite dans les critères de jugement partagés entre professionnels pour évaluer la qualité du travail réalisé par leur pair. Ces critères d'évaluation, il faut savoir qu'ils sont tout à la fois techniques et graphiques. J'ai pu m'en rendre compte et les comprendre en interrogeant les tatoueurs, en les sollicitant sur diverses images hein, de tatouages, de styles différents, où je leur disais, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi tu l'aurais abordé comme ça, etc. Donc ça les faisait discuter à travers ça. J'ai pu comprendre quels étaient les critères qu'ils mobilisaient pour faire sens hein, de ces images tatouées et évaluer la qualité d'un tatouage. Donc d'un point de vue technique, un bon tatouage, je vous ai mis ici une image en exemple que je leur avais présentée et qu'ils ont unanimement plébiscité. Ici, c'est un dos japonais qui représente la figure du masque de Anya. Anya, c'est la déesse japonaise de la jalousie. Donc d'un point de vue technique, un bon tatouage, c'est un tatouage qui doit être, on disait, le tatoueur propre et solide. Propre et solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un tatouage qui est bien piqué. Un tatouage qui est bien piqué, c'est un tatouage dont les lignes sont régulières, elles sont nettes, elles sont franches. C'est un tatouage dont le remplissage couleur est constant, dont les ombrages sont bien dégradés et dont la cicatrisation est parfaite pour laisser une peau parfaitement lisse après l'ancrage. Les boursouflures post-cicatrisation sont en effet le signe d'un réglage inadéquat de la profondeur et de la vitesse de frappe des aiguilles dans la peau. Donc c'est la raison pour laquelle hein, les tatoueurs très souvent touchent la peau des clients tatoués qui circulent dans leur studio pour évaluer hein, la qualité technique du travail réalisé par leur pair. Si la peau n'est pas parfaitement lisse comme à l'origine après le tatouage, c'est que le tatoueur ne maîtrisait pas bien sa machine à tatouer. D'un point de vue graphique, un tatouage doit dégager, me disaient les tatoueurs et les tatoueuses, de la force et de l'énergie pour avoir un beau rendu visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son contenu doit être suffisamment simple pour être parfaitement lisible, qu'il doit avoir un jeu équilibré entre le sujet central, ici typiquement le masque de Anya, et ses décors, pour assurer, avec un placement adéquat du motif sur le corps, un parfait dynamisme au tatouage, c'est-à-dire qu'il joue parfaitement avec le corps, avec ses formes et avec ses mouvements. Les tatoueurs et les tatoueuses que j'ai rencontrés ont sens unanimement hein, loué ce tatouage-là, ce masque de Anya, pour sa propreté, son équilibre et sa pose qui était jugée absolument parfaite. Donc c'est en appliquant finalement ces critères de jugement sur le travail de leur pair que les tatoueurs vont distinguer le mauvais du bon tatoueur et le bon tatoueur de l'artiste tatoueur. Alors les tatoueurs et les tatoueuses vont évidemment, chez les mauvais, distinguer l'écorcheur du gribouilleur. Donc l'écorcheur, vous l'aurez compris probablement, c'est celui qui ne sait pas manier sa machine à tatouer, qui ne sait pas bien la régler, et donc qui pique très mal, contrairement au bon tatoueur. Le gribouilleur incarne au contraire un piètre dessinateur par opposition à un artiste tatoueur. Donc le tatoueur qui maîtrise bien les réglages de sa machine est capable de reproduire sous la peau n'importe quel motif en le personnalisant même à minima et fait ainsi figure hein, de bon tatoueur. Mais il se distingue évidemment de l'artiste tatoueur qui fait pour sa part pas que copier et personnaliser avec brio n'importe quel motif, mais qui va proposer des compositions qui vont innover en mariant des sources d'inspiration diverses. c'est ce qui vient différencier, selon les professionnels de l'ancrage, hein, le bon de l'artiste. Alors évidemment, hein, une fois de plus, le travail des tatoueurs s'inscrit dans le cadre d'une activité commerciale, pas simplement dans le cadre d'une activité artistique. Et donc, les ambitions à créer les motifs, des motifs d'une grande complexité graphique se heurtent le plus souvent à des demandes qui sont ingrates. Donc, à moins d'être extrêmement réputé, hein, et donc de tatouer des collectionneurs de tatouages ou d'être devenu le tatoueur d'un tatoueur, la plupart des professionnels de l'ancrage me disaient être exposés à une clientèle pour 80 à 90%, 90% de néophytes. Hein. Donc, ces figures idéales du tatoueur, hein, finalement, elles peuvent se retourner et renvoyer à des figures repoussoires au sein du monde professionnel entre le tatoueur qui va être un profiteur, me disaient mes interviewés, et le tatoueur qui va faire figure hein, d'égocentrique. Donc le profiteur, c'est celui qui chercherait à maximiser ses profits tout en réduisant ses efforts. Donc selon les professionnels du tatouage, c'est un tatoueur qui ne va pas s'appliquer à personnaliser ou à composer les motifs, mais qui va se composer de les reproduire tels quels à la chaîne et faire un abus des flashs, donc de ces canevas hein, au dessin prédéfini. A l'inverse, hein, l'égocentrique, c'est celui qui se prendrait justement beaucoup trop pour un artiste et qui tendrait à imposer ses propres envies à ses clients. À ce titre, hein, on reconnaît évidemment moins facilement aux tatoueuses des talents graphiques, car le jugement porté sur leur réalisation n'est pas nécessairement neutre. La lecture d'un tatouage peut en effet projeter des stéréotypes liés à l'appartenance socio-sexuelle de son auteur. C'est ce que montre le propos tenu par exemple par Quentin, un des tatoueurs que j'ai interviewé, qui me disait « Maintenant, je trouve aussi pendant longtemps les filles faisaient des tatouages que moi je trouvais moins intéressants par rapport à ce que moi j'aime dans le tatouage. Avec peut-être un côté trop féminin, trop fin qui ne m'intéressait pas. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui tatouent, qui ont les aptitudes techniques nécessaires pour faire un bon tatou, mais qui ont le touch féminin. Je pense pour une clientèle féminine, ça peut être plus sympa de se faire tatouer par une femme que ben, ma copine tatoue des gens, c'est peut-être plus cool comme ça aussi. » On voit ici que la finesse est perçue de manière dépréciative par Quentin en raison de critères d'évaluation qui empruntent à un modèle qui va valoriser des tatouages au tracé appuyé et au jeu de couleurs affirmé. Donc ce défaut est généralement associé à une incompétence technique, c'est-à-dire qu'on considère que les tatoueuses oseraient moins y aller avec leur machine à tatouer. Donc même si certaines auraient remédié à cette faiblesse, leur prestation garderait une touche féminine qui est jugé positivement hein, dans un contexte de féminisation de la pratique. Donc ce plus grand souci du détail et de la finesse attribué aux tatoueuses serait en effet devenu un avantage face à une clientèle qui s'est fortement féminisée, alors qu'il apparaît au contraire comme une entrave quand il s'agit de tatouer une clientèle masculine qui serait en quête d'un marquage viril. Mais la féminisation de la pratique du tatouage fournit une légitimité qui reste toute relative à la présence des femmes en tant que professionnelles du tatouage, puisqu'elles restent toujours soupçonnées d'incompétence par rapport à leurs homologues masculins. Michel me rapportait en ce sens les propos de clientes qui affirmaient ne pas accorder leur confiance à une tatoueuse pour exprimer ses propres doutes à l'égard des savoir-faire de ses collègues féminines. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, c'est bête à dire, mais même j'ai souvent des femmes qui me disent, j'ai été voir une fille qui était tatoueuse, j'ai pas confiance. Je lui dis, ah bon? Ouais, c'est bizarre, pourquoi? Je sais pas, faut leur demander à elle. Mais justement, je fais plus confiance à un homme, je sais pas. Il y a une relation de force, une relation comme ça de... Et même une copine, elle me dit, non, sincèrement, je me ferais pas tatouer par une nana. Comme dans d'autres sphères professionnelles, l'expertise et la compétence sont associés à des qualités censées être masculines et s'opposent à des qualités censées être féminines, comme le ressenti ou l'intuition. Les tatoueuses se voient alors attribuer un nouveau handicap qui contribue à leur éviction professionnelle. Parce qu'elles sont des femmes, on estime qu'elles sont plus douces et pacifiques. Cette sensibilité est perçue comme positive vis-à-vis d'une clientèle féminine, mais en même temps comme une entrave pour gérer un studio et pour gérer les outrances d'une clientèle masculine qui serait encore aujourd'hui, selon Louis, hein, très fortement encline à ne pas respecter les tatoueuses qui auraient beaucoup plus de difficultés à remettre hein, leurs clients à leur place. Il me disait, je veux dire, une femme toute seule dans une boutique avec six motards bourrés, elle va avoir de la peine. Et je lui dis, parce que c'est encore beaucoup ça, me dit, ah ouais, ils essayent de toucher les nichons, oui, oui, oui. Alors évidemment, dans les observations et dans l'enquête que j'ai menée, non seulement j'ai pas pu voir cette clientèle stéréotypée dans les studios, mais j'ai pas non plus pu observer des tatoueuses qui n'étaient pas capables de remettre en place leurs clients. Au contraire, j'ai pu observer qu'elles avaient un sens de la répartie bien acéré, mais aussi qu'elles usaient des mêmes stratégies que leur père masculin pour rappeler à l'ordre et remettre à leur place des clients dont le comportement serait jugé inadéquat au sein du studio. C'est ce que me racontait par exemple Jeanne en se remémorant une situation de tatouage où un client l'observe. Donc elle me dit, un client qui se fait un petit tatou sur le pec et dévisage. Tu sais, il te regarde vraiment que c'était une salope qu'il aimerait bien se tirer. Alors ça, j'aime pas. Ce que tu peux faire, c'est d'y aller plus fort pour qu'il ferme les yeux. Donc la stratégie de Jeanne, c'est quoi? C'est Jeanne ne va pas utiliser ici les mots, elle fait usage de la force. Elle manie avec beaucoup plus d'agressivité sa machine à tatouer, de manière à faire mal à son client pour l'obliger à détourner les regards. Les tatoueurs avec qui j'ai discuté me disaient user de même stratégie envers des clients, hommes cette fois, qui se la joueraient un petit peu trop et qui montreraient, me disaient-ils, que c'est des vrais, des hommes à se faire tatouer. Donc ils estiment que la séance de tatouage n'est pas le lieu pour un étalage de sa virilité et donc vont remettre à leur place leurs clients en utilisant aussi de manière beaucoup plus acérée leur machine à tatouer. Donc on voit finalement que les comportements des tatoueurs comme des tatoueuses ne sont pas différents dans la relation qu'ils entretiennent à leur clientèle, qu'ils usent les mêmes stratégies et que ce genre de stratégies finalement sont aussi une manière de réduire l'asymétrie qui est propre à la relation de service qu'est l'acquisition d'un tatouage et que les tatoueurs et les tatoueuses rappellent ainsi à leurs clients que ce sont bien eux, derrière la machine à tatouer, qui détiennent le pouvoir et l'expertise de satisfaire la soif d'encre de leurs clients. Je vais conclure là-dessus, je vous remercie pour votre attention.